RFI, grand reportage. Laurence Adou.
Et pour cette nouvelle grille de l'été, les témoignages exceptionnels dans ce grand reportage. Des ex-détenus du camp de travail de Massengia, au nord de la Chine, racontent les mauvais traitements qu'elles ont subis.
Moi, je tiens chaud aussi.
On va quand même lui donner un petit mouchoir parce que c'est très dur.
Moi, je lâche.
中学还是大学?
中学.
Elle était professeure de mathématiques au lycée.
Et depuis le camp de travail, elle ne peut plus retravailler. Le chagrin et l'amitié, voilà tout ce qu'il reste à ces femmes de Massengia après plusieurs mois passés dans l'enfer de ce camp de rééducation pour femmes du nord de la Chine. L'amitié, le mot traduit mal d'ailleurs le lien qui unit ces ex-détenus, ex-pétitionnaires venus un jour réclamer justice à la capitale et pour cette simple raison envoyés aux travaux forcés. Aujourd'hui, ces femmes ne viennent plus avec des pétitions. Elles viennent avec des documents, avec des photos, des dessins, avec des chansons pour exprimer leur douleur. Elles viennent parler aux journalistes.
On est d'abord avec un premier témoin. On est maintenant dans un jardin du centre de Pékin. Alors, il y a beaucoup de pétitionnaires, beaucoup de femmes de Massengia qui sont venues à Pékin pour raconter leur histoire. Elles sont venues en groupe souvent et on doit donc les interviewer tour à tour. Et donc, on commence par cette dame qui va nous raconter un peu son histoire. Comment, d'abord, est-ce qu'elle peut se présenter ?
Je m'appelle Zhu Guiqin.
Elle a une feuille avec des photos. Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Comme vous le voyez sur ces photos, la chef de brigade a utilisé la matraque électrique. Ici sur ma tempe, ici sur ma joue et là sur mes oreilles. On voit aussi des croûtes de sang sur mon visage, car ils m'ont enfermée très longtemps dans la chambre d'isolement. Je ne pouvais pas me laver, je me suis grattée jusqu'au sang.
Et on voit des marques sur sa tempe, effectivement, à la matraque électrique.
Ils ne m'ont pas laissé aller à l'hôpital. Ils m'ont enfermée pendant un mois pour que ma famille ne voit pas mes blessures, qu'elle ne voit pas mes bosses, mon visage gonflé comme une boule de pain.
La personne dont elle parle, le bourreau de ce camp, c'est qui ? C'est le chef du camp ? Qui c'est exactement ?
C'est la vice-chef de brigade de Massengia, mais au camp on l'appelle chef de brigade Wang. C'est elle qui pratique elle-même les tortures, elle gifle, elle tire les cheveux, et ça c'est le moins qu'elle puisse faire. Sinon, sa spécialité c'est la matraque électrique. Elle recharge sa matraque toutes les nuits, puis elle tape sur les visages, sur les tempes, sur nos bras, sur nos jambes, sur le ventre. Rien que le bruit de la matraque fait peur. Dès qu'elle l'approche de vous, vous êtes déjà terrorisé.
Elles ne sont pas prêtes de l'oublier, la matraque électrique du chef de camp. Ces femmes ordinaires, professeurs, fonctionnaires, commerçantes, paysannes, devenues un jour gêneuses, gênantes pour les pouvoirs locaux. Ce fut particulièrement vrai en 2008, une période terrible pour les pétitionnaires en Chine. Avec les Jeux Olympiques, les camps de rééducation par le travail font le plein. Gai Fengzhen est notre deuxième témoin.
En 2008, les autorités craignaient que les pétitionnaires ne perturbent les Jeux Olympiques et viennent noircir l'image du pays. Ils nous ont enfermés pour nous empêcher d'aller à Pékin. Certains ont été internés dans des hôpitaux psychiatriques, d'autres dans les camps de rééducation. D'autres encore ont été envoyés en prison sous de faux prétextes. Même mon mari handicapé a été envoyé en camp de travail.
Gai Fengzhen a fait 4 séjours dans le camp de Massengia. La dernière fois, c'était en 2010. Elle se souvient parfaitement de la disposition des lieux. Depuis que Lens, l'un des meilleurs magazines photos de Chine, a fait un sujet sur le camp le mois dernier, la statue du héros communiste Lei Fang à l'entrée est tombée. Mais pour le reste, rien n'a bougé. Gai Fengzhen.
Il y a 2 blocs d'immeubles. Les dortoirs se trouvent du côté sud-est et les chambres de torture et notamment les pièces d'isolement se trouvent dans l'aile nord-est. Il y a 4 étages et à chaque étage, il y a une brigade de surveillance. Beaucoup d'entre nous sont passés par l'isolement. C'est au 4e étage de l'immeuble des gardiens. Derrière une grande porte en fer, il y a les cellules dites « petits numéros ». Chacune fait moins de 4 mètres carrés et toutes les fenêtres sont obstruées.
Les terribles cellules Xiaohe, petits numéros, des pièces de 4 mètres carrés dépourvues de toilettes qui se remplissent d'excréments à mesure que les détenus se vident de leur humanité. Un exemple de mauvais traitement parmi d'autres qui a été révélé par les détenus au magazine de photo Lens, mais aussi dans le documentaire « Femme au-dessus d'un champ de fantômes » car Massengia se trouve sur un ancien cimetière. Caractère fébrile à l'encre bleue sur du papier fin emballé dans des feuilles plastiques. Le journal intime de l'une des détenues a pu sortir du camp, glissé à l'intérieur de son vagin. À Massangia, raconte-t-elle, ils ont frappé nos seins et nos parties génitales avec des matraques électriques. Ils ont rempli nos vagins de poudre de piment rouge. Ils y ont inséré des brosses à dents et fait des rotations. Ils nous ont ouvert la bouche avec des dilatateurs vaginaux pour nous gaver et nous insulter. Qu'est-il arrivé à notre pays ?
Je m'appelle Dubin, je suis photographe, je travaillais pour le New York Times. Et je viens de terminer un documentaire sur le camp de travail de Massangia et sur ce que vivent les femmes qui sont dans ce camp.
Les femmes au-dessus des fantômes, c'est comme ça que s'appelle ce documentaire, c'est pour ça qu'on a souhaité vous rencontrer. Avant d'arriver ici dans ce café à l'ouest de Pékin, on est sorti du métro et là, quelqu'un nous prenait en photo. C'est normal, c'est toujours comme ça, il est suivi ?
Non, personne ne me suit. Les agents sont très occupés. Ils sont en train de faire une enquête pour vérifier ce qui s'est passé à Massangia.
Il a beaucoup d'humour, donc oui, effectivement, il y avait quand même quelqu'un, sûrement un agent de la sécurité publique, qui filmait notre rencontre. Nous sommes maintenant dans un café. Et ce qui nous a intéressé, nous, c'est de savoir d'abord comment c'est possible qu'une affaire comme ça puisse être d'abord photographiée, racontée dans un magazine, puis ensuite filmée par Dubin, comment ça a pu émerger, comment c'est arrivé.
Pour ça, il faut remercier M. Meng Jianzhu, le chef de la sécurité publique. C'est lui qui a annoncé la fermeture des camps de travail pour cette année. S'il n'avait pas fait cette annonce, personne n'aurait osé aborder ce sujet, et moi le premier.
La réforme des camps de travail annoncée également par le Premier ministre chinois Li Keqiang était attendue lors de la réunion du Parlement en mars dernier. Mais pour l'instant, les camps sont toujours là. Mis en place sous Mao, le tristement célèbre système des Laogai, le goulag chinois, devait permettre de rééduquer les ennemis du parti et cela de manière extrajudiciaire, sans procès ni avocat. Depuis 1983, Deng Xiaoping a fait de ces camps des entités économiques autonomes, usines, mines, une véritable manne financière pour l'appareil de sécurité publique. À Massangia, on ne chôme pas. Wang Wuping est notre troisième témoin.
Je travaille presque 20 heures par jour dans le camp. Nous fabriquons des vêtements pour l'armée, des vestes et des pantalons. Par jour, on doit faire 200 vestes molletonnées et 800 pantalons. Un jour, j'ai eu plus de 1000 vêtements à repasser. Je ne pouvais pas terminer et le chef de brigade m'a demandé de payer une amende de 220 yuan. Les salaires sont très bas dans le camp. Moi, je suis payé 5 yuan par mois. Évidemment, ça ne suffit pas car on doit payer beaucoup de choses, même ce qui devrait être gratuit, comme le liquide vaisselle, les serviettes, les torchons, même les cuillères sont payantes. Quand le robinet ne marche plus, on doit payer aussi pour le réparer. Et en plus, on a des amendes quand on ne travaille pas suffisamment.
On ne sait plus pourquoi on rentre à Massangia. Pour avoir abîmé un meuble dans les locaux de la police, pour avoir contesté la vente de son appartement parce qu'on est devenu fou de colère face aux injustices ou tout simplement parce qu'on déplaît aux fonctionnaires locaux. Une fois sur place, on se retrouve avec les exclus de la société chinoise, les membres de la secte Falun Gong, les chrétiens interdits, les activistes des minorités et les drogués. Ancienne professeure de mathématiques, Xu Fengge était chargée de surveiller les boutons et les fermetures éclairs sur les vêtements produits par le camp.
Dans un camp de travail, c'est normal d'être battu. Ils utilisent les criminels, les drogués et les prostituées pour taper les pétitionnaires. Je m'étais préparée à ça, mais je dois dire que c'est pire que ce que l'on peut imaginer. Je ne pensais même pas pouvoir ressortir vivante de Massangia. Le 5 janvier 2011, je suis arrivée à l'atelier vers 6 heures. J'ai vu une planche sur le sol. Je voulais la ramasser, mais j'étais blessée et je n'ai pas réussi. Alors la chef de brigade, Yu, m'a insultée. Elle m'a entraînée dans le local anti-incendie. Au début, elle m'a donné des coups de pied sur la tête, mais je n'ai pas bougé, je n'ai rien dit. J'ai pensé que ça n'était pas la peine de pleurer devant eux.
Elle montre sa poitrine. Elle montre son bras.
Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Elle n'a pas arrêté de me donner des coups de pied. J'entendais mes os craquer et puis j'ai perdu connaissance.
Mauvais traitement, douleur, ces femmes sont venues nous les raconter dans un coin de jardin sans caméra de la capitale chinoise. Documents, photos, dessins et parfois chansons à l'appui.
Une fois entrée à Massangia, j'ai compris ce que voulait dire être à bout de patience à bout de force, à bout de tout. J'ai donc écrit une chanson qui s'intitule « Quand ».
Jeune Meshero, quand me rendra-t-on mes droits, ma liberté, ma santé? Quand me rendra-t-on ma maison? Demande la chanson de notre quatrième témoin.
Guy Fengzhen.
La technique de l'écartèlement est pratiquée de toutes sortes de façons dans le camp. Il y a par exemple l'écartèlement en croix, les deux bras et les deux jambes menottés sous extrémité du lit. Parfois on ne touche plus le sol, c'est l'écartèlement en suspension. C'est tellement dur, on se sent déchiré de partout. Il m'est arrivé de cracher du sang. Parfois on perd connaissance, on se fait pipi et caca dessus. On crie très fort aussi, mais ça ne sert à rien. Personne ne nous entend, personne n'intervient.
Personne pour intervenir, personne pour s'interposer face à l'arbitraire et à la violence des gardiens. La réforme annoncée, la suppression des camps qui tarde à venir, constituerait un pas vers l'état de droit en Chine. Pour Raoué, notre cinquième témoin, il faut aussi que les responsables des tortures soient punis, à commencer par Wang Yanping, la chef de brigade du camp de Masenjia.
Je me souviendrai toujours de ce soir du 29 septembre 2012. Je vois encore son visage, je vois ses mains qui serrent mon cou, j'entends sa voix aussi. Wang Yanping m'a menacé. Si tu n'obéis pas, je t'envoie dans la prison de Dabei. J'avais peur, ma mère a 80 ans, ma fille est à l'université. Comment vont-elles faire sans moi? Ses expressions, ses gestes, oui, je me souviens. Wang n'a rien d'une femme policier, c'est une malade mentale. Je lui ai dit, tu détestes les pétitionnaires, car une pétitionnaire t'a un jour griffé le visage. Elle m'a répondu, viens me griffer, viens et j'aurai encore une médaille. C'est très facile d'avoir des primes avec vous. J'ai été relâchée l'année dernière, le 30 décembre, mais Wang Yanping est toujours là. Elle a torturé des centaines de femmes. C'est une malade. Elle est toujours fonctionnaire de l'État et elle continue de pourrir la vie des détenus.
Et la chef de brigade n'est pas la seule responsable de ces mauvais traitements. Wang Yuping accuse aussi le médecin du camp.
Pour ma deuxième opération chirurgicale, ils ne m'ont pas anesthésié. Et le médecin de la brigade n'a pas désinfecté ses instruments. Je le lui ai dit, il était très fâché. Et du coup, il a mis une boule de coton sous ma peau. Regardez.
Dans sa peau, là sur l'épaule, il y a une grosse boule noire qui date de cette époque, qui date de ce camp. C'est le chirurgien du camp qui lui a glissé un bout de coton infecté.
Aujourd'hui, je pourrais l'enlever, bien sûr, mais j'ai décidé de la garder comme une marque de ce qu'ils m'ont fait à Masenjia. Je veux me souvenir de cette douleur physique et psychologique. Il faut fermer les camps de travail.
Fermer les laogai, symbole des pires heures de la révolution culturelle, c'est ce que demande la société civile dans un pays qui sera demain la première puissance économique du monde. C'est aussi la dernière volonté de ces femmes broyées par le système.
Quand vous ressortez de Masenjia, vous êtes totalement brisé, on ne peut plus rien faire, on se sent inutile. J'ai des trous de mémoire, j'oublie les choses. Quand je prends le bus, j'oublie mon sac dans le bus.
Beaucoup de mes amis m'ont dit « Pourquoi tu ne choisis pas des sujets plus positifs ?» Je leur ai répondu « Personne ne peut accepter ce qui se passe dans ces camps. Personne ne peut accepter les traitements qui sont infligés à ces femmes. Donc, j'ai fait ce film. »
Ma Massengia, les femmes se révoltent contre leur temps de travail. Un grand reportage de Stéphane Lagarde et Ronganchi. À la réalisation, Eva Moschinski.
Stéphane Lagarde, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors d'abord un mot sur la musique que nous entendons à la fin du reportage. Il s'agit du générique du documentaire que nous entendons dans votre reportage.
Oui, le film de Dubin qui ne peut être vu qu'à Hong Kong pour l'instant, malgré les annonces de réforme, le film est censuré en Chine, tout comme le site du magazine Lens, qui en avril dernier a consacré 14 pages à ce sujet tabou. Ça a surpris tout le monde, hein, ici, qu'un magazine chinois puisse ainsi révéler les tortures exercées dans le camp, d'où la contre-enquête lancée immédiatement par les autorités et qui est venue démentir aussitôt les propos de ces ex-détenus. Mais cette annonce de réforme a quand même, on peut le dire, libéré la parole et ces femmes sont maintenant prêtes à tout pour raconter leur histoire.
Alors vous évoquez les chambres d'isolement de 4 mètres carrés, l'usage de la matraque électrique. Quels sont les autres mauvais traitements subis par les détenus?
L'un des témoins fait allusion à l'écartèlement qu'elle a subi. Par exemple, c'est vraiment au sens littéral du terme ici, Laurent, puisque la détenue se retrouve suspendue en l'air, les bras et les jambes menottés à un lit superposé. On a aussi l'écartèlement assis sur une chaise du tigre ou à plat, hein, ce qu'on appelle le lit du tigre. Et puis, il y a toutes les brimades, la douche une fois par mois, les maigres rations alimentaires. Quand les détenus tentent de se suicider, on les attache. Là encore, on utilise des outils pour leur maintenir la bouche ouverte, nous ont-elles raconté, de manière à les nourrir. Ce qui est frappant ici, c'est que pour la première fois, l'ensemble de ce système concentrationnaire est décrit grâce à ces témoignages. À Massengia, il y a une brigade de surveillants à chaque étage pour environ 500 détenus. Mais selon les chiffres officiels, 190 000 Chinois seraient aujourd'hui en rééducation par le travail, 400 000 selon la fondation Lao Gai.
Alors Stéphane, c'est aussi un système économique le camp de travail.
Oui, on produit des vestes de l'armée, mais pas seulement. Dans d'autres camps, on produit des pochettes de disques, des jouets, des jeans, parfois vendus à l'étranger. On se souvient notamment de cette lettre bouteille à la mer découverte en fin d'année dernière par une Américaine dans une boîte de pierre tombale en polystyrène. Cette Américaine, elle avait acheté un jouet pour Halloween et au milieu du coffret, donc un mot a été laissé par un prisonnier de Massengia, justement, un mot qui demandait à ce que l'acheteur du produit renvoie cette lettre à l'Organisation mondiale des droits humains, le prisonnier racontant les tortures et les cadences infernales auxquelles sont soumis les détenus, donc dans cette boîte de jouets achetée aux États-Unis.
Alors pour finir, Stéphane, vous l'avez dit, les autorités démentent l'existence de ces mauvais traitements.
Effectivement, officiellement, ces tortures ne seraient le fruit que du délire des détenus. Difficile de vérifier de toute façon ce qui se passe à l'intérieur du camp, puisqu'évidemment, les journalistes n'y sont pas admis. Mais la détresse de ces femmes parle d'elle-même. Laurent, ça abîme un homme, un camp de travail, ça aussi beaucoup détruit. Vous l'imaginez, ces femmes qui, pour certaines, sont atteintes de troubles mentaux, conséquence de ces mauvais traitements.
Ce sera le mot de la fin, Stéphane Lagarde. Merci beaucoup. Au micro, Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Et travaillons à la beauté des choses.